Oui, pas de problème.
Voilà. Donc bonsoir. Merci d'être présent ici ce soir. Merci à Monsieur Prantsos d'être présent parmi nous, d'avoir accepté l'invitation. Vous faites partie de l'EAP. Vous êtes collègue en fait à une personne qui est venue nous rencontrer mardi soir, Madame Duret. Et c'était l'occasion aussi de citer l'IAP qui fêtait ses 75 ans. Et je disais que finalement c'était une jeune institution par rapport à l'Observatoire de Paris, par exemple, hein, qui était plus
Ah
ancien.
oui,
Et donc on disait que ben, faire de la science, faire de l'astronomie, c'était toujours être jeune. Et ce soir, eh bien, aussi par rapport au sujet, je pense qu'on va se rajeunir un peu, on va essayer de voir des choses un peu nouvelles. Donc pendant l'intervention, on peut prendre des questions, hein.
oui, bien
Voilà,
sûr.
donc manifestez-vous, levez le doigt, la main, et après l'intervention, de toute façon, il y a un temps qui est prévu pour échanger, pour débattre, pour poser des questions sur ce sujet et d'autres, hein, et on va essayer comme ça de partir très très loin vers les étoiles. Donc je vous laisse la parole.
D'accord, merci. Merci pour l'invitation. C'est la première fois que je fais une conférence à Poitiers. Je suis bien sûr allé à Futuroscope déjà avec ma famille, mais c'est la première conférence. Donc, je suis content et reconnaissant à Monsieur Chapelle pour l'invitation. Alors, le sujet de cette conférence est un peu inhabituel. Et je suis conscient, je parie même que il n'y a pas beaucoup de conférences sur ce sujet. Il n'y a même aucune. Il n'y a pas beaucoup de gens en France qui parlent de ce sujet. En règle générale, au niveau international, même le sujet des voyages interstellaires, ce n'est pas quelque chose qui fait rêver, en tout cas pas autant que dans les années 60, 50 et 60. Il n'y a que, bon, peut-être quelques adolescents et puis les auteurs de science-fiction, mais encore, qui s'intéressent à ce genre de sujet aujourd'hui. Mais commençons par les débuts. Alors, les débuts, comme chaque fois qu'on parle de l'espace et de la place de l'homme dans l'espace, ça remonte essentiellement à. Bon, bien sûr, on peut mentionner on peut déjà remonter à l'Antiquité si l'on veut, parce que depuis que l'homme existe, a toujours rêvé d'aller vers les étoiles, ces petits points lumineux qu'on voit dans l'espace. Mais le premier qui a sérieusement et scientifiquement pensé à ce genre de sujet, c'est l'enseignant russe Konstantin Tsiolkovsky à la fin du 19e siècle, qui est considéré comme le père de l'astronautique parce que c'est lui qui a établi les équations des fusées. Qui sont son équation, qu'on verra dans un instant, c'est presque aussi célèbre que la formule d'Einstein de E égale mc2 au carré. Et Tsiolkovsky a non seulement, il était beaucoup plus qu'un mathématicien, il a non seulement établi l'équation des fusées, mais il a réfléchi aussi sur la place de l'homme dans l'espace, dans l'univers. Il a pensé à utiliser les ressources des météorites, il a pensé à utiliser l'énergie solaire, et il était un visionnaire. Pour lui, le futur de l'homme, c'est dans l'espace, comme il a si joliment décrit dans sa célèbre formule, la Terre est le berceau de l'humanité, mais on ne reste pas au berceau toute sa vie. Et ces visions de Tsiolkovsky, qui était très, très honoré par les soviétiques, il était académicien jusqu'à sa mort en 1935. Ses visions ont commencé à prendre chair et os dans les années 40, dans un contexte qu'il ne pourrait sans doute pas imaginer, dans le contexte de la Deuxième Guerre mondiale. C'est à ce moment-là que les premières fusées vraiment qui vaillent ce nom ont été développées par les Allemands dans la base secrète de Peenemünde au nord de Berlin pour bombarder Londres de loin. Hein. C'est-à-dire Peenemünde se trouve à quelques centaines de kilomètres, 200 km dans le nord de Berlin, donc 1 000 km plus loin, c'était Londres, donc il s'agissait d'envoyer des fusées pour bombarder Londres. Et il est vrai que quelques centaines de fusées sont tombées sur Londres avec quelques milliers de victimes, mais il était trop tard parce que le sort de la guerre s'était déjà scellé, les Alliés ont gagné. Et le père de ce projet, Werner von Braun, a été embauché par les Américains, en fait, en voyant la fin s'approcher. C'est lui-même, avec son équipe, qui se sont rendus aux Américains, qui avançaient. Et les Américains l'ont embauché pour construire une armada de fusées de plus en plus puissantes qui leur permettrait d'envoyer leurs ogives nucléaires sur la tête des Soviétiques. dans le cadre de la guerre froide qui démarrait. Et cette fois-ci, il s'agissait de fusées capables de traverser non pas 1000 km, la distance entre l'Allemagne et l'Angleterre, mais 10 000 km hein, pour traverser l'océan Arctique et aller des États-Unis sur le sol soviétique. Et quand cette armada a été construite, donc dans les années 50, assez rapidement, von Braun et son équipe ont pu s'occuper de tâches autrement plus nobles, donc construire des fusées capables de mettre en orbite des hommes sur des hommes autour de la Terre. Et puis avec le point d'orgue de ça, c'était la construction de la dernière fusée, une des plus puissantes jamais construites, Saturn V. C'est celui qui a permis, dans le cadre du projet Apollo, d'amener les premiers astronautes sur la Lune à la fin des années 60. Et à cette époque-là, on pensait sérieusement qu'on pourrait aller beaucoup plus loin. Von Braun lui-même avait établi des projets pour aller sur Mars, pour envoyer non pas quelques astronautes, mais des équipes assez nombreuses sur Mars. Mais comme vous le savez, tout ça est tombé un peu dans l'oubli depuis, pour mesurer, prendre la mesure un peu du recul qu'on a fait depuis cette époque-là. Il faut se rendre compte que depuis 1972, l'année du retour du dernier astronaute qui a marché sur la Lune, la Lune se trouve à 360 000 km de la Terre, aucun être humain ne s'est éloigné de notre planète de plus de 400 km. C'est la distance Paris-Lyon, c'est la distance à laquelle se trouve la station spatiale internationale, en gros, où vont nos astronautes quand ils prennent la navette ou quand ils prenaient la navette. Donc ça montre un peu les reculs qu'on a eu depuis cette époque-là. Et pourtant, il en était autrement dans les années 60, comme on l'a dit. Pour ceux d'entre vous, et il y en a quelques-uns, enfin pas beaucoup, qui avaient la chance de vivre cette époque où les nouvelles des exploits des astronautes faisaient la une des journaux. C'était mon cas, en fait. J'étais gosse à l'époque, et même en Grèce, où j'ai grandi, les journaux parlaient régulièrement des exploits des astronautes et des cosmonautes soviétiques de l'époque, le rendez-vous orbito, et bien sûr l'apothéose avec l'alunissage de Armstrong et Aldrin. C'était une époque où tout paraissait possible. On parlait de bases sur la Lune, de voyages vers Mars, de l'exploitation des astéroïdes, des ressources des astéroïdes, et des tas de choses. Et c'était une époque alors où l'homme avait été parvenu, dans l'espace d'une décennie, à maîtriser l'énergie nucléaire, les fusées, les ordinateurs. Et il paraissait assez invraisemblable que dans un délai relativement raisonnable, quelques décennies tout au plus, on pourrait non seulement se répandre dans le système solaire, mais aussi aller beaucoup plus loin, vers les étoiles. Et c'est ainsi que bon nombre de physiciens, d'ingénieurs, de scientifiques ont déployé de trésors d'imagination pour jeter un pont vers les étoiles. Mais malgré leur ingéniosité, tous ces projets n'ont fait que rendre encore plus évidente la difficulté de la tâche. Parce que les étoiles sont loin, beaucoup, beaucoup trop loin. Et c'est une affaire assez difficile, comme on va le voir. On va voir en partie des projets essentiellement développés lors de cet âge d'or de l'époque du spatial, et puis quelques améliorations, quelques idées qui ont été développées depuis, dans des cercles assez restreints quand même. Il n'y a pas de projet officiel à ce moment-là. La NASA n'a aucun projet officiel pour les voyages interstellaires. Mais d'abord, quelques chiffres sur les voyages interstellaires, les distances interstellaires, pour prendre un peu la mesure de la difficulté de la tâche. Donc vous connaissez les systèmes solaires qu'on voit ici avec les planètes internes, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, et puis Jupiter, et Neptune, qui est considéré comme... vous savez que jusqu'à une dizaine d'années, il y a une dizaine d'années, Pluton faisait partie aussi des planètes du système solaire. Maintenant, Il n'est plus considéré comme une planète, il est considéré comme un petit corps du système solaire. C'est une convention. Bon, ça a des, il y a des raisons scientifiques pour cela. Mais en tout cas, la dernière planète du système solaire, maintenant, c'est Neptune, qui se trouve à une distance de 4,5 milliards de kilomètres du Soleil. Et pour ne pas jouer beaucoup avec les milliards, les trillions de kilomètres, on utilise comme unité de distance l'unité astronomique, c'est la distance Terre-Soleil, 150 millions de kilomètres. Donc Neptune, c'est une trentaine d'unités astronomiques de la Terre. Alors, l'objet macroscopique le plus rapide que l'homme a jamais construit, c'est les sondes Voyager. Voyager qui sont... Ici, vous avez, pardon, vous avez une coupe, le système solaire se trouve là. Et ici, vous avez ce qu'on appelle l'héliopause. C'est... Ça marque les limites de notre système solaire. Pourquoi ? Bon, c'est une convention, bien sûr. C'est beaucoup plus loin que la dernière des planètes, mais le Soleil émet un vent de particules, et ces particules se propagent dans le milieu interstellaire. Quand on est proche du Soleil, du système solaire interne, ce vent se répand, mais plus il va loin, plus il rencontre un milieu interstellaire qui le repousse, et là où le vent s'arrête, c'est l'héliopause, et de manière conventionnelle, c'est la limite du système solaire. Donc, l'objet le plus rapide qu'on a jamais construit, c'est les sondes Voyager, qui sont parties de la Terre pour explorer les planètes externes du système solaire, donc dans les années, à la fin des années 70, et au bout d'une trentaine d'années, une fois leur mission terminée, se trouve maintenant à l'héliopause. Vous l'avez lu peut-être il y a un an ou deux ans dans les journaux. Donc Voyager se trouve maintenant à 15 milliards de kilomètres de la Terre. Donc ça fait 100 unités astronomiques. Donc trois fois plus loin que Neptune, si vous voulez. Et pour arriver là, il a mis, disons, 25 ans, une trentaine d'années, à une vitesse moyenne de 72 000 km par heure, ou 20 km par seconde. C'est l'objet macroscopique, je le répète, le plus rapide jamais construit par l'homme, parce que dans nos accélérateurs, on accélère des particules à des vitesses proches de la lumière, mais là, je parle d'un objet macroscopique. Donc, à cette vitesse-là, qui est c'est presque une centaine de fois plus grande que la vitesse d'un avion de ligne, Voyager a mis une trentaine d'années pour arriver à la limite de notre système solaire. Mais les étoiles, même les plus proches, vous avez ici une vision des étoiles les plus proches au Soleil, le Soleil se trouve au milieu de l'image, et puis les étoiles les plus proches, comme vous le savez, c'est celles du système Alpha de Centaure, et en particulier, bon, ce système, c'est un système triple d'étoiles, il y a trois étoiles, et la troisième, c'est la petite étoile rouge là, qui s'appelle Proxima de Centaure, qui se trouve à, aujourd'hui, se trouve à 39 000 milliards de kilomètres de nous. Ça fait 260 000 unités astronomiques. Je vous rappelle que Voyager est à 100 unités astronomiques. Donc, maintenant, comme ça commence aussi à faire des chiffres assez grands en unités astronomiques, on raisonne plutôt en années-lumière. C'est la distance que la lumière parcourt en une année, à une vitesse de 300 000 km par seconde. Et donc, Proxima de Centaure se trouve à 4,3 années-lumière. Et si Voyager continuait sur sa lancée, et s'il allait en ligne droite vers cette étoile, ce qui n'est pas le cas, il mettrait 65 000 ans pour y arriver. Donc, vous voyez un peu les distances qui nous séparent des étoiles, qui sont même les plus proches, se trouvent très, très loin par rapport à nos moyens actuels de propulsion. Pour atteindre les étoiles dans un délai raisonnable, donc, qu'est-ce qu'on appelle raisonnable ? Raisonnable, ce serait une quarantaine d'années. La durée, pardon ? Une demi-vie, en gros, ou la durée de vie de ceux qui, des plus jeunes, parmi l'équipe qui a lancé la sonde. Ils espèrent avoir un retour, quand même, avant leur retraite ou avant leur mort. S'ils ont 25 ans au moment du lancement, bon, espérer avoir quelques nouvelles quand même. Donc, une quarantaine d'années, il faudrait une vitesse de 30 000 km par seconde. Donc, un dixième de la vitesse de la lumière qu'on désigne toujours par la lettre petite c. c'est la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde. Donc il faut un dixième de ça, 30 000 km par seconde, pour avoir une chance d'atteindre les étoiles les plus proches dans un délai raisonnable. Et la question c'est, est-ce qu'on a les moyens, est-ce qu'on peut, même sur le papier, avoir des idées, proposer des choses. Et ce que je ferai, dans une grande partie de cet exposé, pas trop technique, je l'espère, mais vous pouvez toujours poser des questions à tout moment, c'est de passer en revue les idées, quelques idées qui ont été proposées. Mais d'abord, et c'est le seul transparent qui sera un peu technique, où vous verrez des équations. En général, je ne mets pas d'équations, je ne mets jamais des équations, mais c'est la seule fois où... Donc je vous préviens, ne soyez pas effrayés si... Un mot sur la physique des fusées. On parle des fusées. Qu'est-ce que c'est une fusée? Bon, c'est ce genre de choses que vous voyez ici. Une fusée, c'est un objet qui a une charge utile. Il vaut mieux avoir quelque chose quand même qui sert à quelque chose. Ça peut être les astronautes dedans, ça peut être des instruments de mesure. Et ensuite, essentiellement, la fusée, il faut deux choses. Comment on fait d'ailleurs? Pourquoi Tsiolkovsky est devenu célèbre? Parce qu'il a réalisé que le seul moyen qu'on a pour se mouvoir, pour bouger dans l'espace vide, c'est la fusée. Qu'est-ce qu'elle fait la fusée? Pourquoi on ne peut pas prendre un avion? C'est que la fusée projette quelque chose en arrière, une quantité de gaz, de fluide en général, et par le principe action égale réaction de Newton, que vous connaissez, que vous souvenez peut-être de vos années de collège, le reste de la fusée est propulsé en avant. Alors, plus grande est la vitesse d'éjection, V petite e, vitesse d'éjection, et la masse de carburant M qui est propulsée en arrière, plus grande sera la vitesse VR de la fusée qui ira dans ce sens-là. La charge utile M. Et l'équation de Tsiolkovsky, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est dans le monde de l'astronautique, c'est aussi célèbre que l'équation d'Einstein, c'est celle-là. La vitesse terminale de la fusée, c'est égal à la vitesse de l'éjection, fois un logarithme de rapport de masse, masse de carburant sur la masse de charge utile. Donc, vous réalisez que plus la masse de carburant... Bon, ça, c'est la manière dont on arrive à cette... parce qu'on peut évaluer quand même cette vitesse d'éjection. À quelle vitesse on peut pousser les carburants en arrière? Ça dépend de l'efficacité de votre source d'énergie. Parce que toutes les sources d'énergie n'ont pas la même efficacité. Une source d'énergie efficace convertit une fraction de la masse de fuel en énergie cinétique du carburant. Et si on joue un peu avec l'énergie cinétique, bon, vous reconnaissez peut-être ces formules-là, c'est une fraction de la masse au repos, ça c'est la formule d'Einstein, on obtient un rapport entre la vitesse d'éjection qui repart de l'efficacité, là c'est la vitesse de la lumière. Bon. Donc en gros, plus on a une source d'énergie efficace, plus la vitesse d'éjection sera élevée, et par cette formule-là, plus la vitesse de la fusée sera élevée. Donc plus la fusée sera rapide. Bon, si vous avez saisi, tant mieux, sinon c'est pas grave, sinon on pourra revenir si vous avez des questions, mais je pense que l'idée physique, vous la saisissez quand même. Hein. Vous avez besoin de, c'est pareil avec les avions, une source d'énergie qui est efficace. Mais qu'est-ce que ça veut dire efficace? Ça veut dire qu'elle est capable de convertir sa masse en énergie, selon le principe d'Einstein. Vous savez, la masse est équivalente à de l'énergie. Et cette énergie, on l'éjecte dans les carburants. Et cette carburant, elle est éjectée à une vitesse. Plus cette vitesse d'éjection en arrière est grande, plus la fusée ira vite. Mais aussi, plus la masse de carburant est grande, plus la fusée ira vite aussi. La masse de carburant est dans le nominateur de cette fraction. Voilà, bon, ouf, on est parti quand même de ces transparents techniques. Après, je vous rassure, il n'y en a plus d'autres. Hein, c'est fini. Voilà, non, rassurez-vous. Alors, quelles sont les sources d'énergie que nous avons? Déjà, oui. Ah oui, 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 mais ça, c'est pour la vitesse terminale. Une fois vous avez terminé votre carburant, oui. Sinon, si vous voulez suivre vraiment ce qui se passe, il faut écrire l'équation différentielle. Et là, vous obtenez, là, ça, c'est la... la vitesse finale, terminale. Hein. Donc l'idée, c'est vous laisser fonctionner votre moteur le temps qu'il faut pour arriver à la vitesse terminale. Donc vous épuisez votre carburant et après vous allez à vitesse constante. Pendant la première phase, vous accélérez, mais après vous allez à vitesse constante. C'est cette vitesse terminale que vous pouvez espérer obtenir. Bon, ça c'est dans la théorie, c'est des situations idéales, hein, où tout marche très bien, où on arrive au maximum, etc. En réalité, il doit y avoir pas mal de pertes. Bon, les sources d'énergie. Alors, à quoi ça marche nos fusées actuelles, ceux qui vont sur la Lune, qui sont allés sur la Lune, ou qui, avec lesquels on ira peut-être un jour sur Mars? C'est plutôt l'énergie chimique. Hein. Vous savez, vous connaissez les propergol, ces genres de carburants. Ça, c'est de l'énergie chimique, on brûle quelque chose. Hein. Mais le rendement de cette source d'énergie est ridiculement faible. Quand vous brûlez quelque chose, il y a quelques millionièmes de la masse qui se transforme en énergie, qui vous récupérez en énergie. Ce facteur, le petit alpha là, c'est de l'ordre d'un millionième. C'est rien du tout. Dans les vitesses qu'on obtient, par rapport à la vitesse de la lumière, c'est vraiment ridicule. Hein. C'est à peu près les vitesses de Voyager. C'est beaucoup, beaucoup trop faible par rapport à la vitesse de la lumière. Est-ce qu'on a des sources d'énergie plus puissantes, avec un rendement plus élevé? Oui, c'est le cas de la fission nucléaire. Donc, c'est celle qu'on utilise dans nos usines nucléaires. Les centrales nucléaires, pardon. Donc là, l'idée, c'est que vous prenez des noyaux lourds, comme l'uranium, et vous le cassez avec des neutrons qui arrivent. Et donc, quand ils se cassent à des noyaux plus légers, ça produit de l'énergie. Mais le rendement de celle-là, c'est aussi de l'ordre de quelques sur 10 000. Hein, sur 10 000. C'est pas énorme. On ne peut pas obtenir de vitesse très, très élevée. Quelques millièmes, peut-être un centième de la vitesse de la lumière. Mais il faudra... Et pour cette raison, si on veut construire une fusée avec la fission nucléaire, il faudra des masses de carburant, des masses d'uranium, de plusieurs dizaines de milliers de tonnes. Hein. C'est beaucoup, beaucoup plus grand que ce qu'ils utilisent, toutes nos centrales nucléaires sur Terre. Alors la fusion thermonucléaire, c'est une autre histoire. On ne la maîtrise pas actuellement, vous savez de quoi il s'agit. Il s'agit cette fois, c'est l'opposé de la fission. On prend des noyaux très légers cette fois, du deutérium, du tritium, qui ont quelques nucléons dedans, un proton, un neutron ici, un proton et deux neutrons là. On les met ensemble, on les pousse pour qu'ils fusionnent. Et c'est très difficile de faire ça parce que, comme ils ont une charge électrique, c'est les plus que vous voyez là, c'est très difficile de les mettre ensemble. Il faut des températures énormes. Et c'est pour cette raison qu'on ne peut pas, on ne maîtrise pas actuellement la fusion thermonucléaire. Mais comme on est assez géniaux, on a fabriqué des bombes thermonucléaires, c'est les bombes à hydrogène depuis les années 50. Et pour les obtenir, on fait d'abord exploser une bombe à fission, une bombe atomique, comme celle qui est tombée sur Hiroshima et Nagasaki. Ça fait très chaud, ça fait une centaine de millions de degrés, et dans cette fournaise, ces réactions-là deviennent possibles, et là, on obtient beaucoup plus d'énergie, le rendement, c'est de l'ordre d'un millième. Et si vous mettez ça dans la formule qu'on vient de voir, on peut obtenir des vitesses de l'ordre de quelques centièmes de la vitesse de la lumière, peut-être un dixième de la vitesse de la lumière dans les meilleurs des cas. Donc voilà pour les deux sources. L'une, elle est maîtrisée, mais elle n'est pas très prometteuse. Celle-là, on ne l'a pas encore maîtrisée. Vous savez que malgré les efforts qui ont été déployés depuis une cinquantaine d'années un peu partout dans le monde, en Russie, aux États-Unis, au Japon, en Europe, et maintenant tous les efforts ont été concentrés dans cette centrale à Cadarache, dans le sud de la France. Ils essayent de faire les premiers réacteurs à fusion thermonucléaire. Est-ce que ce sera le cas? On le saura peut-être d'ici quelques 10 ans, 20 ans peut-être. Alors, voilà pour les principes théoriques. Alors, déjà dans les années 50, donc, sur base de... Les idées théoriques, les fondements théoriques existaient depuis les années 40. On comprenait très bien les réactions nucléaires, on savait tout ça, on a commencé à jouer avec les bombes. La bombe thermonucléaire était connue déjà au début des années 50. Elle est tombée à Bikini, c'était la première essai. Bikini, c'est une petite île dans le Pacifique. Et justement, comme c'est très chaud, ça a donné le nom maillot bikini, parce qu'ils sont hot, très très chauds. Et donc, dans les années 50, donc, aux États-Unis, il y a eu le premier projet qui explorait ces idées. C'était une équipe qui avait travaillé auparavant au projet Manhattan, de la construction de la première bombe qui est tombée à Hiroshima. Une équipe sous le physicien Theodore Taylor qui a travaillé pendant 7 ans sur le projet Orion, qui était appelé, c'était la construction d'un vaisseau. C'était une idée vraiment folle parce qu'il utilisait pour être propulsé des explosions nucléaires, atomiques. Ça peut paraître débile parce qu'on peut se demander qui c'est qui se mettrait, d'autant plus que ça concernait un vaisseau avec équipage. Donc, on peut se demander s'il y aurait des astronautes qui accepteraient de se mettre là. Mais l'idée, c'est d'avoir des amortisseurs quand même assez puissants, si les amortisseurs étaient là, et l'explosion, de manière régulière, il y avait une explosion à une certaine distance, je ne sais pas, moins une cinquantaine de mètres du vaisseau, et les débris de l'explosion étaient projetés à grande vitesse, donc le vaisseau encaissait l'impact, et à travers les amortisseurs, bon, de manière assez douce, mieux vaut avoir. Et ça allait en avant. Alors, l'idée, c'était d'avoir un payload, c'est la charge utile, dans laquelle il y avait aussi l'équipage, donc un millier de tonnes. L'accélération, c'était 1G, c'est l'accélération sur Terre, hein, c'est la pesanteur terrestre. Et il faudrait une explosion, enfin 5 explosions par seconde. Donc, c'était quand même des explosions assez fortes, peut-être de l'ordre de. C'est de l'ordre du kilotonne. 1000 tonnes ici, 10 puissance 3, c'est 1000 tonnes, c'est un kilotonne. La bombe de Hiroshima, c'était 20 kilotonnes. Donc c'était des explosions quand même plus faibles que celles de Hiroshima. Et à l'époque, ce qui les intéressait, c'était la propulsion à l'intérieur du système solaire. Dans les années 60, un des membres de l'équipe, le physicien Freeman Dyson, qui est toujours vivant, c'est un des meilleurs physiciens du XXe siècle, non pas pour ça, mais pour tas d'autres choses qu'il a fait, il a proposé d'utiliser cette fois cette méthode-là, cette fois pour un vaisseau interstellaire. Bon, c'était beaucoup plus grand. Oups, pardon. Et il était censé utiliser pratiquement toutes les bombes de l'arsenal nucléaire de l'époque des superpuissances, c'était plusieurs milliers de bombes, pour un voyage sans retour d'un siècle vers l'étoile la plus proche. Bien sûr, personne ne participerait pas à un voyage comme ça sans retour, parce que si vous comptez de faire un voyage avec retour, en transportant tous les combustibles nécessaires avec vous, ça monte de manière exponentielle les besoins en combustible. C'est très difficile, en règle générale, ce qui est plus difficile dans ce genre de voyage, si vous allez très vite, c'est de faire demi-tour. Ça, il faut le savoir. Ça nécessite, s'il faut une quantité énorme, déjà pour obtenir une grande vitesse, ça multiplie de manière exponentielle les besoins si on veut faire un demi-tour et revenir sur Terre. Donc ça, c'était juste, il s'avère que pour un voyage de un siècle vers l'étoile le plus proche, mais sans retour, il faudrait un peu plus que l'arsenal nucléaire de l'époque. Bon, Dyson s'est amusé en disant que pour lui, c'était le meilleur moyen de se débarrasser de l'arsenal nucléaire qu'on avait à l'époque. Vous savez qu'en plein milieu de la guerre froide, il y avait tellement de bombes nucléaires, et même aujourd'hui, il y a tellement de bombes nucléaires sur Terre qui sont capables d'éradiquer toute forme de vie, non pas une fois, mais plusieurs fois. Donc Dyson, qui était un pacifiste connu, il s'est dit que bon, c'était le meilleur moyen de se débarrasser de toutes ces bombes en faisant ce projet. Alors, un autre projet beaucoup plus intéressant et probablement le meilleur projet, le plus sérieux, le plus documenté qui a été proposé jusqu'ici, c'était le projet Daedalus de la Société interplanétaire britannique. Ça a été développé dans les années 70 par une équipe d'une quarantaine de physiciens et d'ingénieurs qui travaillaient dans divers laboratoires, mais c'est à titre privé qu'ils ont établi cette étude. Le moyen de propulsion, c'était la fusion thermonucléaire, mais cette fois-ci contrôlée. Hein, ce n'était pas des bombes à fusion thermonucléaire, ce n'était pas des bombes à hydrogène, mais c'était de petites pastilles du deutérium et de l'hélium 3 qui étaient projetées. Donc il y avait d'énormes réserves. Déjà, voilà, pour voir la taille du vaisseau, c'était un vaisseau à deux étages. Premier étage ici et deuxième étage, vous le voyez là, sa place était là, donc deux étages. Une charge utile, c'était une mission sans équipage, c'est ce qu'ils ont fixé comme, se sont fixés comme mission. C'était un voyage aller simple vers une étoile proche, en l'occurrence à l'époque c'était l'étoile de Barnard, se trouve à 6 années-lumière de la Terre, un peu plus loin qu'à Proxima de Centaure. Donc la charge utile, ce serait une centaine de tonnes, mais ce serait essentiellement des instruments de mesure, des télescopes, des spectromètres, etc. Et pour arriver là, dans un délai raisonnable, d'une 38 ans, une quarantaine d'années, il fallait atteindre 12% de la vitesse de la lumière. Alors, c'était des explosions, mais cette fois-ci des micro-explosions. C'était des petites pastilles de deutérium et d'hélium 3 qui étaient stocké ici dans ces grands réservoirs qui étaient projetés en arrière dans cet énorme appareil hémisphérique, cette chambre hémisphérique. Et là, elles fusionnaient sous l'impulsion de... Ils étaient obligés à fusionner sous des impulsions laser très fortes. C'est une... Bon, là, on peut ouvrir une parenthèse si ça vous intéresse, mais bon, c'est... vous savez, il y a deux méthodes de fusion qui sont en général des fusions thermonucléaires contrôlées qui sont expérimentées, qui... Oui. On fait l'expérience dans le monde. À Cadarache, c'est ce qu'on appelle la chambre magnétique. Donc, on utilise un énorme champ magnétique très, très puissant pour obliger les particules de se mettre ensemble et de fusionner. Mais il y a un autre moyen qui s'appelle la fusion inertielle. Et là, on envoie des puissants faisceaux laser qui frappent les particules, les pastilles, enfin le matériel. Ça fait augmenter localement la densité et la température, et la fusion est obtenue de cette manière. C'est cette deuxième méthode qui est utilisée ici. Il faut injecter 250 fois par seconde dans cette chambre ces pastilles de thérium hélium 3 pour obtenir un peu d'énergie par ces fusions, et ça pousse les vaisseaux qui encaissent effectivement l'énergie. Voyez la taille par rapport à la navette spatiale, et ça, le deuxième. Et surtout quand même, ce qu'il faut savoir, c'est que ça nécessitait, le premier étage devait avoir 46 000 tonnes de deutérium et hélium 3. 50 000 tonnes, c'est, et le deuxième étage, 4 000 tonnes. Donc 50 000 de tonnes au total, ben c'est ce qui peut transporter un gros tanker. Pétrole, c'est une dimension imposante, et même pour une mission sans équipage. Hein. Et pour rendre les choses encore plus intéressantes, l'hélium 3 n'existe pas sur Terre. C'est quelque chose qu'il faudrait aller chercher à cette quantité-là. Ça existe en grande quantité dans les planètes externes du système solaire. Jupiter, par exemple. Ici, vous voyez la tache rouge de Jupiter. Donc, le vaisseau serait parti près de Jupiter. Vous avez un ravitaillement pour l'atmosphère de planètes géantes. Donc, ça vous donne une idée des difficultés quand même. On peut concevoir des choses, mais le gigantisme de ce genre d'entreprise, ça dépasse de beaucoup nos capacités actuelles. En plus, et ça c'est quelque chose d'assez général quand on parle de ce genre de projets, c'est-à-dire des sondes ou des fusées qui vont très vite dans les milieux interstellaires. Le milieu interstellaire n'est pas complètement vide, malheureusement ou heureusement. Il y a des atomes d'hydrogène, c'est vrai que c'est extrêmement raréfié. Il y a un atome d'hydrogène par centimètre cube. C'est rien du tout, un atome d'hydrogène par centimètre cube. D'habitude, dans l'atmosphère autour de nous, il y a, 10 puissance 20 atomes par centimètre cube. Dans les milieux interstellaires, il y a un atome par centimètre cube. Et de temps à autre, il y a aussi un grain de poussière qui pèse quelques nanogrammes, peut-être. Mais ce genre d'objet, si vous allez à une dixième de la vitesse de la lumière, arrive vers vous, justement, avec un dixième de la vitesse de la lumière. C'est des balles de pistolet qui arrivent vers vous. Et ça produit, c'est très dangereux pour la fusée, Dans le meilleur des cas, ça peut court-circuiter tout ce qui est électronique, mais dans le pire des cas, si vous avez des astronautes ça va dedans, ça peut être dangereux. C'est les dangers aussi qui courent les astronautes si jamais on va vers Mars. Hein. Vous avez, si vous êtes occupé un peu de, si vous avez lu, si vous êtes documenté sur les missions martiennes, vous savez qu'un des risques lors du long voyage vers Mars, c'est les dangers provenant des particules, des rayons cosmiques. C'est très dangereux pour les astronautes. C'est pour ça d'ailleurs qu'on pense que dans un premier temps, on enverra des astronautes qui ont déjà des enfants, parce que ça risque de créer des problèmes. Et pour toute mission donc, dans le milieu interstellaire, à grande vitesse, le risque est le même, à la fois pour le vaisseau et pour les astronautes. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre soin d'avoir une protection contre l'impact des atomes du milieu interstellaire. Et les gens du projet Daedalus, bon, Daedalus, ils ont pensé à équiper les vaisseaux avec une plaque de graphite, parce que c'est un élément relativement léger, donc de 1 mètre d'épaisseur, parce qu'il sera érodé au fur et à mesure par ces particules-là, pour protéger justement les vaisseaux et l'équipage. Donc vous le voyez ici, avec les réservoirs autour. Alors, bon, juste pour être complet sur ce plan, il y a quelques années, en 2009, donc 25 ans après Daedalus, la société interplanétaire britannique a mis sur pied une nouvelle équipe pour un projet Daedalus bis, donc le projet Icarus. Comme vous le savez, dans la mythologie grecque, Icarus, c'était le fils de Dédale. Je ne suis pas convaincu que c'est un bon... Bon, c'est vrai qu'il y a une suite quand même dans les idées, hein, Dédale, Icar. Mais comme vous le savez, c'est un d'entre vous qui connaissent le mythe, Icar s'est cassé la gueule quand même parce qu'il a voulu aller trop près du soleil. Donc ses ailes ont été fondues par le soleil. Et c'est pas très prometteur, mais voilà, donc ça c'est la maquette de leur... Je pense que d'ici 2 ou 3 ans, ils vont sortir un projet beaucoup plus actualisé par rapport à Dédale. Alors, autre chose, on arrive maintenant, jusqu'ici on a vu la fission nucléaire, la fusion thermonucléaire en tant que source d'énergie, et je les ai illustrés avec les exemples d'Orion, de Dédale. Icarus, on n'a pas... Oui. Non, il n'y a pas de neutrons. Au contraire, on essaye dans tous ces projets-là, et c'est pour ça, oui, ça c'était un peu technique. Alors, voilà. Dans la fusion qu'on fait sur Terre, on utilise le deutérium et le tritium. Le tritium, et malheureusement, cette réaction-là, comme vous le voyez, produit... particules alpha, d'hélium 4, mais aussi des neutrons. Alors, le neutron, c'est la peste. Pourquoi? Parce qu'ils sont électriquement neutres. Ils n'ont pas de charge électrique. Ça veut dire qu'on ne peut pas les contrôler. S'ils étaient électriquement chargés, on pourrait les contrôler avec un champ magnétique. Mais comme ils sont neutres, on ne peut pas les contrôler. Si vous avez un réacteur sur Terre, bon, ça vous pose des problèmes, parce que le neutron tombe sur le paroi, les chauffe, mais vous avez intérêt à avoir des grandes quantités d'eau à proximité, pour effectivement refroidir. On peut les contrôler, ça. Mais si vous avez un réacteur comme ça dans l'espace, il n'y a pas d'eau quand même, vous n'avez pas une piscine à côté ou un océan ou une mer. Donc il faut éviter les réactions avec les neutrons. Donc il faut éviter cette réaction-là. Et c'est pour ça que les ingénieurs de Daedalus ont proposé l'hélium 3. Parce que cette réaction-là ne produit pas de neutrons. Donc, on est en sécurité. Mais le prix à payer, c'est que l'hélium 3 n'existe pas sur Terre. Et malheureusement, il faut aller le chercher dans les planètes extrasolaires. Les planètes géantes. C'est ça le problème. Mais il n'y a pas de neutrons du tout là. Parce que s'il y avait des neutrons, on aurait des gros problèmes. Ça endommagerait tout de suite les réacteurs, malheureusement. On ne peut pas les contrôler. Parce qu'il n'y a pas de neutrons. Ah, et pourquoi? Les particules qui viennent de l'espace, qui vont éroder éventuellement. Oui, c'est vrai, on peut se demander effectivement si on arrive à endommager les réservoirs et on commence à voir des fuites. Je ne sais pas. En tout cas, dans le dessin, non. Mais les dessins, c'est des illustrateurs qui le font. Bon, est-ce qu'ils le font bien? Je ne sais pas. Bon, dernière source, l'antimatière. Quelque chose de magique. Hein. Vous connaissez le mot antimatière, ça a une aura magique, souvent auprès du grand public. Ça n'a rien de magique. Hein. La antimatière, c'est de la matière. Il n'y a rien de spécial. Simplement, au lieu d'avoir un proton, dans la matière ordinaire, il y a les protons qui ont une charge électrique positive et les électrons qui tournent autour qui ont une charge électrique négative. Dans le cas de l'antimatière, il y a des particules qui s'appellent des antiprotons qui ont une charge négative et des particules qui sont l'opposé des électrons, de positrons, qui ont une charge positive. Mais c'est leur seule différence. Voilà. Et au lieu d'avoir un atome d'hydrogène comme ça, vous avez un atome d'antihydrogène. Malheureusement, l'antimatière, contrairement à ce qui se passe avec l'uranium, le deutérium ou l'hélium-3 qu'on le trouve dans la nature, l'antimatière n'existe pas dans la nature. On n'a pas de source d'antimatière. C'est quelque chose qu'on peut produire à laboratoire, mais il faut fournir d'énergie pour le produire. Comme Einstein nous l'a enseigné, la matière est équivalente à l'énergie. On peut faire disparaître un peu de matière et obtenir beaucoup d'énergie. Et inversement, on peut faire disparaître beaucoup d'énergie et obtenir à part égaux matière et antimatière. Et c'est le seul moyen que nous avons pour l'obtenir. Donc, qu'est-ce qui se passe quand la matière rencontre l'antimatière? C'est ça qui est la plus intéressante pour nous. Ben, si un électron rencontre un positron, ça émet des photons gamma, c'est des particules électromagnétiques. Ce n'est pas très intéressant pour la propulsion. Par les photons gamma, ça pénètre dans la matière et puis ça s'échappe. Ça ne peut pas propulser quoi que ce soit. On ne peut pas, c'est des particules neutres électriquement, on ne peut pas les contrôler comme le neutron. En revanche, un proton et un antiproton, s'ils se rencontrent, ça fait des particules chargées. Vous avez ici les plus et les moins, c'est des particules chargées. Ces particules-là, on peut les canaliser par les champs magnétiques, les propulser en arrière. Et donc, nous, on va de l'autre côté, notre fusée. Mais, comme je l'ai dit, et là, l'efficacité, c'est 100%. Hein, contrairement à la fusion nucléaire ou thermonucléaire, où l'efficacité, le rendement, c'était de l'ordre de quelques pour mille. Ici, l'efficacité, c'est égal à 1. C'est très efficace, mais malheureusement, comme on l'a dit, ça n'existe pas dans la nature. Il faut la produire au labo en dépensant beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. On sait le faire, hein, ce n'est pas le problème. Dans un accélérateur, comme celui de CERN à Genève, on accélère les particules à très, très grande énergie, on envoie des protons sur une cible, ça collisionne, et là, au moment de la collision, il y a beaucoup d'énergie qui est dégagée. Une partie de cette énergie se transforme en particules, une autre petite partie en antiparticules. Et on récupère des antiprotons, on récupère des antiélectrons, donc des positons. On récupère ce qu'on veut. Mais très, très peu, une très faible fraction de l'énergie qu'on met dans cette accélération nous revient sous forme d'antiprotons. Il faut les aller ensuite, il faut aller les collecter un par un. Et c'est ça le gros problème. Combien d'antiprotons, combien d'antimatières on peut produire aujourd'hui? Mais nos capacités actuelles, si on faisait travailler, si on, avec une grande efficacité, tous les accélérateurs qu'on a dans le monde, on pourrait récupérer par an environ quelques milliardièmes du gramme pour 100 millions de dollars. Hein, c'est le coût de fonctionnement. Donc l'antimatière, c'est le matériau le plus cher qui puisse exister. Hein. Vous pouvez espérer, dans les meilleurs des cas aujourd'hui, de récupérer cet ordre de grandeur. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un milliardième de grammes d'antimatière? Pas grand-chose. Mais et ensuite, le deuxième problème qu'il pose l'antimatière, c'est le stockage. Le deutérium ou l'hélium-3, l'uranium, vous pouvez les stocker quand même quelque part. Mais l'antimatière, vous savez très bien que si vous mettez vos antiprotons dans n'importe quel récipient, ben voilà, ça va s'annihiler tout de suite. Vous ne pouvez pas les stocker. Il faut utiliser des champs magnétiques. C'est le seul moyen qu'on a. Il y a un type du CERN qui s'appelle Penning et qui a conçu ce qu'on appelle une piège de Penning avec des champs, mais il faut bien aligner vos champs magnétiques. Bon, aussi bien dans le sens longitudinale que toroïdale et poloïdale, bon, bref. Et ça permet effectivement de piéger. Mais quelques atomes ou quelques ions à la fois, ça, on arrive à les faire aujourd'hui. On a des techniques pour maintenir un atome d'hydrogène ou quelques atomes de, pardon, d'anti-hydrogène qui planent, voilà, dans un champ magnétique. Mais de grammes d'antimatière, plusieurs trillions de trillions de trillions d'atomes, non, ça, on ne sait pas faire aujourd'hui. Et à mon avis, ça peut être très, très dangereux, parce que si ça, les champs magnétiques, à un moment, fluctuent un peu, il suffit de quelques, de très peu de choses pour que les atomes vont vers les parois, et puis pouf, ça, tout ça part, y compris les parois et les réacteurs. Donc voilà les difficultés pour l'antimatière. Il y a des schémas, ensuite, si on est assez optimiste, et on suppose qu'on arrive à faire le champ magnétique qu'il faut et à maintenir, piéger les atomes, on peut imaginer ensuite des systèmes pour utiliser ces réactions-là pour chauffer un fluide ou faire autre chose. Et c'est sur base de ce genre d'idées qu'il y a quelques groupes, ça c'est un groupe à l'Université de Pennsylvanie, qui a proposé un vaisseau, non pas interstellaire cette fois, c'est... Bon, je ne vais pas vous... Bon, vous embêtez trop avec les détails techniques. Ça concerne un voyage aller-retour avec équipage qui durait un an et demi vers Jupiter avec un séjour de 90 jours autour de Jupiter. Et pour ces voyages-là, on aurait besoin d'un microgramme d'antimatière seulement. C'est un millionième du gramme. Vous voyez l'efficacité de l'antimatière. C'est extraordinaire. Sauf qu'un microgramme, c'est 100 à 1000 fois plus que ce qu'on peut produire avec nos accélérateurs aujourd'hui. Il faudrait faire travailler nos accélérateurs pendant un siècle pour avoir ces microgrammes d'antimatière. Et il y a d'autres projets. Bon, celui d'envoyer une mission sans équipage à 10 000 unités astronomiques. Je vous rappelle que Voyager est à 100 unités astronomiques, donc 100 fois plus loin que Voyager en 50 ans. C'est une mission qui durera presque... Bon, Voyager est là depuis 30 ans. Ça fait 30 ans qu'il est parti, donc c'est... mais cette fois-ci, on peut aller 100 fois plus loin dans le même espace, dans la même durée, en utilisant 130 microgrammes, 130 millionièmes du gramme, en obtenant une vitesse moyenne de 3 millièmes de la vitesse de la lumière. 1000 fois, enfin, quelques millièmes de la vitesse de la lumière. Et bon, ça c'est le BIM Core, là c'est un peu technique, c'est la méthode la plus efficace qu'on connaît pour propulser, utiliser l'antimatière. En règle générale, toutes les fusées qui utilisent l'antimatière, vous allez voir, contrairement à Dédalus, c'est des fusées assez allongées comme ça. Hein. Il y a une raison à ça, d'ailleurs ça vous rappelle un peu le fameux vaisseau Discovery de 2001, l'Odyssée de l'espace, pour ceux d'entre vous qui avaient vu les films. On place toujours les astronautes le plus loin possible du réacteur. Parce que dans le réacteur, les réactions d'annihilation matière-antimatière produisent énormément de photons gamma très énergétiques, très pénétrants, qui est létal pour les organismes vivants. Hein? Donc on essaye de se mettre aussi loin que possible. Et c'est ça l'objectif aussi. Quand vous voyez des vaisseaux aussi lancés, ça veut dire que ce qui se passe là, ça produit des choses incontrôlables qui sont dangereuses. Voilà. Donc, on essaye de se mettre le plus loin possible. Et là, c'est ce qu'on peut faire avec l'antimatière. Mais si on veut faire des choses vraiment intéressantes, bah, on arrive malheureusement à des quantités de 1 tonne d'antimatière. 1 tonne, bah, si c'était un combustible classique, 1 tonne, c'est rien du tout. Hein. C'est mais 1 tonne d'antimatière, bon. On peut facilement, ça ne prend pas beaucoup de volume, beaucoup d'espace, mais on ne peut pas le produire aujourd'hui. On n'a pas l'énergie nécessaire sur Terre, même si on dépensait toute l'énergie qu'on produit sur Terre, avec toutes nos centrales, tout ce qu'on fait, on n'est pas capable de produire ça, 1 tonne d'antimatière. Manifestement, il faudra utiliser l'énergie solaire, mettre d'énormes panneaux autour du Soleil, récupérer son énergie et l'utiliser pour produire ensuite de la matière antimatière. Alors, bon, on va faire un petit récapitulatif de ce qu'on a vu jusqu'ici. on a vu les sources d'énergie qu'on connaît, fission, fusion et antimatière, dans une fusée, ce qu'on appelle classique. Et on voit que ça ne va pas très fort. Maintenant, il y a des gens qui ont pensé à laisser tomber l'idée de la fusée classique. C'est quoi une fusée classique? C'est une fusée qui transporte à la fois la source d'énergie et les moteurs. Il y a des gens qui se sont dit, mais est-ce que c'est absolument indispensable d'avoir sur la fusée la source d'énergie et même les moteurs? On peut se débarrasser de tout ça, les laisser derrière, loin, sur Terre, et propulser le vaisseau à travers, par exemple, un puissant faisceau laser qui sera basé derrière dans le système solaire. Le faisceau laser a l'avantage de rester assez concentré, de ne pas diverger. Si vous prenez une lampe habituelle, vous prenez la lumière du soleil avec la distance, ça diminue son intensité, hein, ça se propage partout dans l'espace. Mais le faisceau laser, c'est un peu comme le pointeur ici, hein, vous voyez, c'est un faisceau qui reste quand même assez concentré. Et donc, il est vrai qu'à ces distances-là, interstellaires, bon, ça s'élargit un peu, mais quand même, on pourra imaginer d'arriver à le garder concentré sur une énorme voile interstellaire et pousser la voile, qui aura peut-être pas transporté un vaisseau, une charge utile, jusqu'à un système proche. Et c'est sur base de ça, justement, mais il est vrai que pour voir, déjà, on sait quand même, on peut faire les calculs. Si on veut maintenir un faisceau laser focalisé sur des distances plusieurs milliers d'unités astronomiques, donc des années-lumière, il faudra utiliser une énorme lentille capable de le focaliser. Donc il faudra développer des lentilles de diamètre plusieurs fois, de plusieurs centaines de kilomètres, ça peut faire facilement la taille de la France, dans l'espace, pour focaliser le faisceau laser sur la voile interstellaire. Et donc, ça veut dire que ça... On doit être capable de maîtriser des travaux à assez grande échelle dans les systèmes solaires. Et la taille de cette voile est aussi impressionnante. Ça peut être la taille de la France ou de la taille de l'Europe, en fait. Bon, dans l'espace, on a beaucoup d'espace, et par définition, on peut déployer les voiles qu'on veut. Et c'est la pression de la lumière qui pousse justement cette énorme voile. Alors maintenant, quand on travaille quantitativement sur ce genre de choses, parce que, à nouveau, on doit se donner une mission. La mission, c'est d'aller dans une durée raisonnable, disons 10 ans, ils ont pris ici, ils ont vu assez. C'était assez optimiste. C'est donc la taille de la voile, c'est un diamètre de 1000 km. Et c'est avec équipage, donc une charge utile de 1000 tonnes, avec équipage. Il faut déjà une lentille au système solaire de la même taille, 1000 km de diamètre. Et il faut un faisceau laser qui développe une puissance de 10 millions de gigawatts. Je ne sais pas si ça vous parle, ces chiffres, mais c'est 10 000 fois supérieur à notre production d'énergie sur Terre aujourd'hui. Hein? Sur Terre, on produit environ 12 terawatts d'énergie, donc c'est un 10 000e de ça. Donc il faut, à nouveau, on ne peut pas échapper, il faut une énorme quantité d'énergie pour obtenir des vitesses intéressantes pour un voyage interstellaire. Alors ça, c'était pour un voyage avec équipage. On peut imaginer quand même, et Robert Forward, qui était un des meilleurs physiciens ingénieurs de ce type, a imaginé quand même, parce qu'il faut miser aussi sur le progrès de la nanotechnologie, il ne faut pas oublier ça. Il a imaginé une mission beaucoup moins ambitieuse, mais plus réaliste, qui utilise seulement un faisceau laser de 10 gigawatts. C'est 1/100 de ce qu'on produit sur Terre. Donc c'est assez raisonnable, mais on a toujours besoin d'une énorme lentille. Et là, l'idée, c'est de propulser non pas un vaisseau avec équipage, mais une micro-sonde de charge utile de 4 grammes. 4 grammes sur lesquels on aura placé tous les récepteurs, tous les instruments de mesure, les spectrographes qu'on peut imaginer, sur une voile de 1 km de diamètre quand même, et de 16 grammes de très très fin câble, un câblage. Et vous voyez que c'est même assez troué, c'est-à-dire il n'y a pas de, c'est pas une surface rigide. Mais ça, ça pose pas un problème parce que les photons ici sont des photons dans le domaine de radio, ils peuvent pousser quand même, ils passent pas à travers. C'est un peu comme des leur longueur d'onde, techniquement parlant, la longueur d'onde est beaucoup plus grande que la longueur des trous. C'est un peu comme si vous avez des balles de ping-pong plus grandes que les trous du filet. Donc, ils arrivent à pousser quand même, ils ne passent pas à travers, si vous les focalisez sur cette voile. Et là, on peut imaginer, avec une énergie, une dépense d'énergie raisonnable, d'envoyer une sonde, simplement, autour d'une étoile proche, Proxima de Centaure, par exemple, dans un délai raisonnable. À mon avis, c'est la mission spatiale la plus réaliste qu'on puisse imaginer pour une étoile proche aujourd'hui, en ce qui concerne l'énergie à dépenser. Mais n'empêche, ça nécessite quand même, pour focaliser le faisceau, ce genre de travaux. Et si ça vous amuse, on peut même, parce qu'à première vue, comme on pousse toujours dans la même direction, il semble impossible de ramener quelque chose derrière. Hein? Comment vous voulez, par cette méthode, ramener quelque chose? Si vous voulez récupérer ce que vous avez envoyé là-bas, comment vous voulez le récupérer? Et pourtant, Robert Forward a imaginé, je vous l'ai dit parce que bon, ça n'a aucune valeur pratique, mais c'est assez amusant de penser comment on peut récupérer les astronautes. Donc, on commence par envoyer, et d'ailleurs il a utilisé cette idée dans un roman de science-fiction qu'il a écrit il y a une vingtaine d'années. Donc c'est une mission vers Epsilon Eridani, c'est à 7 années-lumière de la Terre. Donc effectivement, le faisceau laser sur, dans le système solaire, la lentille, et puis une voile de 1000 km de diamètre, mais qui contient trois parties, une grande voile, une voile intermédiaire et une voile plus petite. Alors, un peu avant d'arriver autour du système qu'on veut explorer, les deux voiles intérieures se détachent un peu. Bon, on dépense un peu d'énergie, il reste un peu en arrière. Et le faisceau laser qui arrive, qui tape sur la grosse voile, on s'est arrangé pour que la surface de cette grosse voile est très réfléchissante. Et d'ailleurs, ça améliore la poussée. Donc, elle réfléchit la lumière qui lui arrive. Et il la projette sur cette voile maintenant. Et donc, il la pousse en arrière. Et donc, dans un premier temps, cette voile, elle freine. Et si on ajuste comme il faut ce qu'il faut, cette voile freine au niveau de notre étoile. Donc, les astronautes s'arrêtent là, ils explorent le système. Et cette voile fait 320 km, c'est un tiers le diamètre de l'autre pour le rendez-vous. Et une fois qu'ils ont terminé leur mission, ils décident de reprendre le chemin de retour. Et maintenant, à nouveau, la partie la plus interne se détache aussi. Et le même jet est rejoué, donc le faisceau arrive sur la partie extérieure, la intermédiaire. L'autre, il est déjà perdu quand même, il est parti, la plus grande, il est parti. Et il est continuellement réfléchi ici, et il repousse en arrière et on la récupère, si on a de la chance. Je ne sais pas si vous étiez astronaute, si vous auriez beaucoup de confiance en sachant que votre survie et votre retour dépendent des choses qui se font loin de vous, dans le système solaire, à des années-lumière de chez vous. Bon. Et
le retour serait bien plus long. Pardon ? Le retour serait bien plus
long. Je ne sais pas, mais j'imagine que si, parce que la puissance ici doit être nécessairement plus faible que quand vous aviez la totalité du voile. Oui, le retour sera plus lent. Bien sûr, plus lent, oui. Parce que est plus longue, plus lente et plus longue. Oui, oui, oui. Ben c'est, en tout cas, moi, je ne mettrai pas mon pied dans une mission comme ça. Non, ça, c'est pour vous. Ce que j'essaye de vous montrer ici, c'est toute l'ingéniosité qui a été déployée par les gens pour explorer ce genre de choses. Alors, autre projet qui est celui, le seul qui mérite, bon, on verra dans un instant, c'est ce qu'on appelle le projet de Ramjet, développé par un ingénieur de Los Alamos en 1960, qui utilise des carburants obtenus, enfin des combustibles obtenus dans l'espace. On l'a dit tout à l'heure, l'espace n'est pas complètement vide, ça contient des quantités infimes d'hydrogène, un atome d'hydrogène par centimètre cube. c'est pas grand chose, mais c'est pas rien du tout. Et si vous allez assez vite, c'est comme avec les gouttes de la pluie, hein, si vous allez vite, vous ramassez beaucoup de gouttes de pluie par unité de temps. Donc plus vous allez vite, plus vous ramassez de ça, parce que ça, l'hydrogène, c'est des noyaux légers. Et si vous émettez dans votre moteur ici, si vous avez un moteur, vous le brûlez, et plus vous pouvez accélérer et donc aller de plus en plus vite. Et si vous allez plus vite, plus vous rencontrez des combustibles. Donc, idéalement, vous êtes capable d'accélérer, donc aller de plus en plus vite, aussi loin que vous rencontrez des atomes d'hydrogène. Et l'espace contient des atomes d'hydrogène. Et comme vous pouvez accélérer, vous n'êtes pas limité par la vitesse. C'est pour ça que, sur le papier, c'est le seul projet qui est capable d'atteindre ce qu'on appelle des vitesses relativistes. Jusqu'ici, vous avez vu un peu ce qu'on a exploré. On a exploré des projets assez, peut-être farfelus aussi. Mais dans les meilleurs des cas, compte tenu du rendement des réactions nucléaires ou de l'antimatière, on peut aller tout au plus à un dixième de la vitesse de la lumière, 12%, 15%, même sur le papier. Ne parlons pas de l'application pratique. Ici, sur le papier, on peut aller à une vitesse proche de celle de la lumière. Et si on arrive à aller à des vitesses proches de celle de la lumière, on peut bénéficier d'un effet relativiste qui est bien connu, qui est probablement l'effet et le paradoxe le plus célèbre de la théorie de relativité restreinte d'Einstein, c'est le paradoxe des jumeaux. Vous avez peut-être entendu parler. Si vous avez des jumeaux dont l'un reste sur Terre, l'autre s'embarque dans un voyage interstellaire à une vitesse proche de celle de la lumière, il revient au bout de 10 ans de son temps propre et sur Terre, son frère jumeau est mort depuis longtemps, depuis des siècles peut-être, parce que le temps passe de manière différente. Et sur base de ça, Carl Sagan a exploré les performances d'un vaisseau relativiste qui pourrait accélérer continuellement avec une accélération raisonnable. 1G, c'est l'accélération de la pesanteur sur Terre. Donc, c'est ce qu'on subit sur Terre. Donc, ce ne serait pas quelque chose d'insupportable pour les astronautes. Alors, ici, c'est le temps propre en année des astronautes dans le vaisseau qui accélère. Ce n'est pas une vitesse fixe qui lui va, mais il accélère continuellement. C'est-à-dire, il va de plus en plus vite, 90%, 95%, 99%, 19,9% de la vitesse de la lumière. Et vous voyez qu'au bout de 10 ans, il peut atteindre Vega qui se trouve à une trentaine d'années-lumière de la Terre, ouais, déjà. Au bout de 20 ans, il arrive à Betelgeuse qui se trouve à 1500 années-lumière de la Terre. Au bout d'une trentaine d'années, il arrive au centre galactique, un peu plus tard. Le centre galactique se trouve à 25 000 années-lumière de la Terre. Au bout de 40 ans, 45 ans, il arrive pratiquement à la limite de l'univers observable. Bon, ça, si vous mettez les équations sur le papier, oui, c'est ce qui sort, hein, ça je vous le garantis. Et je vous rappelle que la relativité restreinte a été confirmée quand même avec une précision extraordinaire, maintes fois même au laboratoire. On observe ces phénomènes dans les cas des particules instables. On avait dit tout à l'heure que dans les accélérateurs comme celui du CERN à Genève, on peut accélérer des particules, hein, qui vont très vite à une vitesse proche de celle de la lumière. Or, on connaît des particules qui sont intrinsèquement instables, qui ont une durée de vie de quelques millièmes de secondes, quelques nanosecondes, qui, si vous les laissez comme ça à l'état libre, au bout d'une fraction de seconde, ils disparaissent. Mais si on les accélère dans l'accélérateur de CERN à ces vitesses-là, mais ils vivent beaucoup plus longtemps, des milliers de fois plus, simplement parce que dans leur propre... Ils décroissent, mais dans leur propre repère. Et dans leur propre repère temporel, le temps passe beaucoup plus lentement. Et donc, voilà, cette performance, je veux dire, sur le plan mathématique, tient toujours. Sur le plan physique, c'est une autre histoire, si on est capable d'accélérer. Mais en tout cas, justement parce que Carl Sagan, en 1963, a popularisé cette idée, l'idée de Ramjet est devenue l'idée par excellence d'un vaisseau interstellaire. Alors, maintenant, dans la pratique... Bon, ça nécessiterait, pour capter une quantité d'hydrogène aussi grande, il faudrait déployer d'énormes champs magnétiques, hein, des champs magnétiques qui ont des dimensions vraiment gigantesques, la taille de la Terre pratiquement, hein, dans l'espace. Un vaisseau assez long, de quelques centaines de mètres. Déjà, pour aller assez vite, pour que les noyaux qu'on capte ici, qu'on capture, soient suffisants pour nous accélérer, il faut déjà aller assez vite. Si on commence au repos, on capte rien du tout. Donc, on faut être capable d'accélérer à une dixième de la vitesse de la lumière déjà par d'autres moyens avant d'arriver à ce stade. Bon, déjà, on n'a pas résolu le problème. C'est un peu comme avec la bombe thermonucléaire. Il faut d'abord faire exploser une bombe atomique avant d'avoir le rendement de la bombe thermonucléaire. Et ensuite, bon, les atomes du milieu interstellaire, ils sont neutres, ils ne sont pas chargés pour qu'on puisse les capturer par ces filets magnétiques. Donc, il faut les ioniser d'abord. Il faut leur envoyer de l'énergie, un faisceau laser. Mais le pire, c'est que, et ça, les gens y ont pensé après. Parce que pour faire brûler le gaz que vous captez dans votre moteur à fusion thermonucléaire ici, bah, il faut d'abord l'arrêter à votre référentiel. Parce que dans votre référentiel, vous allez très vite. Hein. Donc le gaz arrive à une vitesse extraordinaire. Bah, il faut d'abord l'arrêter quand même pour que ça puisse venir en contact. Mais si vous arrêtez quelque chose, vous encaissez nécessairement l'impact. Hein. Donc ça vous freine. Il est impossible, même si vous le freinez avec un champ magnétique. Donc, le principe action-réaction est toujours valable. Donc, c'est pour ça que d'autres ont pensé que ce mécanisme, ce serait plutôt un excellent frein pour des vaisseaux qui vont très vite, plutôt qu'un moyen d'accélérer. Donc, tout ça pour vous dire que l'idée, sur le papier, est très attrayante, et c'est le seul moyen qui nous permet d'aller à des vitesses proches de la lumière. On n'a aucune autre idée pour l'instant. Donc voilà, une idée pour un vaisseau plus réaliste. Voyez la taille de la navette spatiale ici par rapport à ce ramjet, voilà, un ramjet imaginé par quelqu'un avec beaucoup d'imagination. Mais les champs magnétiques seraient déployés, voilà, ça, la taille serait, je ne sais pas moi, c'est la ville de Poitiers pratiquement. Donc voilà, ici ça récapitule un peu les idées qu'on a vues. Alors, qu'est-ce qu'on a vu, on fait jusqu'ici? On a vu que la puissance énergétique mondiale aujourd'hui est très inférieure à celle requise pour envoyer une charge utile de 10 tonnes pour les étoiles proches en quelques décennies. Mais, bon, l'énergie qu'on maîtrise augmente au fil du temps. Chaque année, notre production d'énergie augmente de 1 à 2%. Ici, on est 2000. Bon, notez qu'il y a un changement d'échelle ici. Après, c'est 2200, 2400. Et on sait que régulièrement, notre production d'énergie augmente. Ça a augmenté un peu plus vite jusqu'à la crise, première crise pétrolière, en 72, mais ça augmente quand même. Aujourd'hui, on produit à peu près une puissance d'une dizaine de terawatts, 10 à 15 terawatts. Voilà, on est aux environs, j'avais fait ce diagramme il y a une vingtaine d'années. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en 1900, à la fin des années 60, quand la fusée Saturne était lancée, pendant la minute du lancement, là où le moteur fonctionne le plus, la puissance que ce moteur produisait était un centième environ de la puissance mondiale, hein, de la puissance qu'on produisait sur Terre. Donc ça veut dire que pour un projet de ce type, on peut imaginer que l'humanité peut dédier un centième de la puissance qu'elle produit. Parce que les autres 99 centièmes, on en a besoin quand même, hein, pour nous chauffer et pour autre chose. Donc aujourd'hui, et ici vous avez l'énergie ou la puissance du premier étage de Daedalus. Vous voyez, c'est très supérieur à ce qu'on produit aujourd'hui. Donc il est impensable qu'on fasse aujourd'hui Daedalus. On ne peut pas. On n'a pas assez d'énergie. Mais dans le temps, si on admet qu'on produise, on augmente notre production d'énergie de 2% par an ou de 1% par an, on voit que d'ici à l'an 2300, on produira beaucoup d'énergie. Et à ce moment-là, on pourra dédier peut-être à 2400 un centième de ça pour alimenter les moteurs de vaisseaux interstellaires. C'est sur base de ce genre de raisonnement que beaucoup de gens pensent que les premiers voyages interstellaires, même des sondes sans équipage, seront entrepris d'ici 2 ou 3 siècles, mais pas avant. Hein? Je suis désolé si je douche vos espérances. Moi aussi, quand j'étais jeune, j'espérais que je verrais de mon vivant des astronautes aller sur Alpha de Centaure. Mais en gros, il faut compter 2 à 3 siècles, sauf miracle technologique, sauf il y a un génie parmi la jeune génération, un jeune ingénieur, physicien, qui trouve un moyen de propulsion génial. Et en plus, bon, Dédalus, quand même, c'est une charge utile de 100 tonnes. On peut imaginer qu'avec la nanotechnologie, on pourra faire des sondes miniaturisées. Et là, ça ira comme Star Wisp, ce qu'on a vu tout à l'heure, et ça ira plus vite. Alors, autre moyen, effectivement, l'autre grande idée, mais qui vient surtout de la science-fiction, je ne sais pas, vous me dites si on doit s'arrêter. Hein. C'est bon, je ne sais pas, ça dépend de vous. Hein. On peut discuter après, mais si ça vous intéresse, on peut continuer encore un peu. Donc, l'autre idée qui est venue plutôt du monde de la science-fiction, c'est que, ben, pourquoi se décarcasser s'il est tellement difficile d'aller vite? Bon, on peut laisser tomber la vitesse et privilégier le confort. Donc, mettre dans le vaisseau un vaisseau relativement lent, mais pas trop lent quand même, mettre des générations entières de gens qui vont s'installer là, des colonies qui vont se reproduire et qui ne sont pas intéressés par... qui sont intéressés par les voyages, mais pas par les destinations. Voilà. C'est l'idée que vous avez certainement vu dans la science-fiction, c'est d'entre vous qui s'intéressent, ça vient de la science-fiction des années 40, l'idée des arches de l'espace, ou comme on s'appelle, des vaisseaux-monde ou des vaisseaux de génération. Parce que l'idée, c'est qu'on embarque quand même une population assez importante, au moins une centaine de gens, un millier de gens, ou plusieurs milliers. Et vous voyez ici l'illustration de Pulp Magazine des années 40, donc la forteresse de l'utopie. Vous voyez, c'est une arche de l'espace, on embarque tout un monde pour un voyage qui va durer des milliers d'années. Et là, c'est une autre histoire. Donc là, même si la vitesse n'est pas aussi impressionnante, ça peut être un millième de la vitesse de la lumière, la masse du vaisseau, c'est la masse qui devient imposante, nécessairement. Là, on ne parle pas de 100 tonnes ou de 1000 tonnes, mais des millions ou des milliards de tonnes, parce que c'est tout un système, un écosystème qu'il faut embarquer. Et finalement, la puissance des moteurs, comme la masse est importante, ben, c'est encore plus grande qu'avant. Si on veut faire bouger ce genre d'objets avec même un millième de la vitesse de la lumière, il faut dépenser des énergies gigantesques. Et il y a eu des idées, bon ça c'est des illustrations, voilà, c'est l'intérieur d'une arche comme ça, avec, c'est des idées de la NASA pour des colonies spatiales des années 70. Là on a des mondes intérieurs avec même des rivières, des fleuves, etc. Ça a été beaucoup utilisé dans une célèbre série de romans de Arthur Clarke, l'écrivain de science-fiction de Rendez-vous avec Rama, qui a imaginé un cylindre de 50 km de longueur, 10 km ici avec une mer intérieure, un cylindre qui tourne autour de lui-même pour assurer sa propre gravité, 18 km donc de diamètre de ce cylindre. Et vous voyez un peu l'intérieur, ça c'est le type qui a fait ces illustrations. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, c'est Manhattan, hein, Downtown Manhattan, avec le Central Park ici. Mais c'est dans la paroi des cylindres, à l'intérieur de la mer intérieure. C'est joli, ça ne veut rien dire, je vous les montre comme ça, mais c'est un jeu quand même, ce n'est pas une illusion d'optique, hein, c'est vraiment comme ça que ce seraient les parois, parce que vous verrez, vous regardez autour de vous, l'horizon... Au contraire, il ne se perd pas, parce que sur Terre, on a une géométrie complètement différente. C'est une sphérique, là, c'est l'inverse, c'est une géométrie hyperbolique. Donc, vous regardez sur les parois et vous regardez juste au-dessus de votre tête et vous voyez l'eau de l'océan au-dessus de votre tête, mais ça ne risque pas de tomber parce que la gravité le maintient là-haut. Et vous voyez la tête des gens, enfin, si c'est assez loin, quand même, à 10 km, 18 km, la tête des gens qui sont là-haut avec leurs pieds sur les parois du côté opposé. Bon, c'est... Oui.
Juste une question,
ah, ça, oui. Mais il y a une physique intéressante, si ça vous intéresse. Oui.
Ma question, vraiment, vient de la science-fiction. Ce que je veux dire, c'est que vous parlez d'énergie pour ces vaisseaux-mondes qui seraient donc forcément gigantesques.
Ah, oui.
Mais ça, c'est une question physicienne. Est-ce que l'essentiel de l'énergie n'est pas pour s'extraire de la gravitation terrestre?
Ah non, attention, voilà. Tous ces projets, dans tout ce que j'ai dit jusqu'ici... Tout ce qui concerne les voyages interstellaires, il est sous-entendu, et vous avez raison de poser la question, on construit les vaisseaux loin de la Terre, de tout objet d'attraction. Alors, sinon, c'est désespéré, hein, il n'y a aucune possibilité. Non, 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 là, voilà. Donc, on construit tout loin de la gravité terrestre. Voilà. Si on a à lutter en plus contre la gravité terrestre, non, ce n'est pas possible. Donc voilà. Alors maintenant, on termine avec, on a terminé avec tout ce qu'on a vu jusqu'ici, je vous le rappelle, est basé sur une physique qu'on comprend. Hein. La physique de la fusion thermonucléaire, on la comprend très bien. La physique de l'antimatière, on la sait très bien, on expérimente au laboratoire. C'est la technologie qu'on ne maîtrise pas. La technologie est très, très loin de nos capacités. Maintenant, il y a des gens qui ont exploré des solutions qui sont basées sur une science qu'on ne maîtrise pas. Et attention, là, on commence à être un peu à la limite de la science qu'on connaît. Donc, ce n'est pas bien établi. Et il se peut très bien que ce ne soit pas valable du tout. Même sur le plan théorique, même sur le papier, il se peut que ce ne soit pas valable. Mais pourtant, c'est ce qui sort de ça. Parce que, vous savez, la science, c'est souvent des équations qu'on résout. Mais comme vous vous souvenez peut-être, quand vous avez une équation de deuxième degré, vous aboutissez, vous demandez la racine carrée de 4. Vous avez deux solutions. Ça peut être les deux, ça peut être le moins 2. Et selon les conditions de votre problème, les deux, ça peut avoir une signification physique. Mais le moins 2, ça n'a aucune signification physique. Hein. Moins 2 pommes, bon. Et encore, ça peut dépendre de votre problème. Mais souvent, il y a une solution qui, sur le papier, tient bien du point de vue mathématique, mais parfois, ça n'a aucun rapport avec la physique, hein, la réalité. Et c'est pareil ici, quand on parle de relativité restreinte ou générale, on peut, sur le papier, avoir des solutions qui, sur le plan mathématique, tiennent très bien, mais on se demande toujours quelle est l'interprétation physique. Est-ce que ça a un sens sur le plan physique ? Et là, les scientifiques n'ont pas encore tranché. Donc, basé sur cette science qui est aux limites, qui a une certaine plausibilité, il y a des gens qui essayent d'imaginer des solutions, à commencer par les gens de la science-fiction. Si vous êtes fan de la série Enterprise, vous voyez ici bon, le célèbre vaisseau de Star Trek, qui utilise un moteur qui s'appelle Warp Drive, ça veut dire ce que ça veut dire, peut-être rien du tout, et qui lui permet d'aller, je sais pas moi, 10 fois plus vite que la lumière, 100 fois plus vite que la lumière. Alors, comment il fait ça? Ah oui, avant d'arriver là, à des vitesses plus fortes que celles de la lumière, on peut se demander s'il existe des sources d'énergie beaucoup plus puissantes. On soupçonne, enfin, on sait que ça existe, mais on n'a aucune idée si c'est exploitable. Ce qu'on appelle la source, l'énergie du vide. Alors, c'est quoi l'énergie du vide? Parce que c'est très important aussi pour la cosmologie. Vous avez peut-être entendu dire que notre univers, bon, il est en expansion, ça on le savait depuis longtemps, mais en expansion accélérée. Depuis une quinzaine d'années, on sait que cette accélération va de plus en plus vite. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui les pousse pour aller de plus en plus vite, sinon ils devraient aller en ralentissant à cause de la gravité qui attire toujours. Et on pense que c'est ce qu'on appelle l'énergie du vide. Alors, le vide, c'est quoi? Dans la physique classique, le vide, c'est le vide, il n'y a rien du tout. Mais dans notre physique quantique, depuis un siècle, on sait que cette notion-là n'existe pas. L'espace, il est toujours rempli, même si vous prenez un volume et vous mettez une pompe et vous enlevez tout ce qui existe, il existe toujours des champs électriques, magnétiques, des particules de Higgs, comme on a découvert récemment au CERN. Et ces champs ont une certaine énergie. Non seulement ils ont une certaine énergie, mais ils ont énormément d'énergie. Donc le vide regorge d'énergie. Mais on ne la ressent pas, cette énergie, parce qu'on est dedans, effectivement. C'est ce que nous, on appelle l'énergie qu'on utilise pour nos fusées, pour s'échauffer, etc. C'est la différence d'énergie par rapport à cette énergie du vide. Un exemple que, bon, je vais vous le donner, une analogie, si ça pour vous aider à comprendre un peu, mais il ne faut pas la prendre trop à la lettre, hein. C'est la notion de l'altitude. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'altitude quand on dit que le Mont Blanc est à 4000 mètres d'altitude, 4000 et quelques? C'est par rapport au niveau de la mer. Hein? Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien en dessous du niveau de la mer. on pourrait dire l'altitude par rapport au fond de l'océan. Et là, ce serait à 10 000 mètres, par exemple. Donc, la notion de l'altitude est relative. C'est par rapport à quelque chose. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le niveau de la mer. Et tout ce qu'on fait, tout ce qu'on mesure, tout ce qu'on récupère. Et d'ailleurs, on peut aussi, l'énergie qu'on utilise par dans nos centrales hydroélectriques, par la chute de l'eau, c'est toujours jusqu'au niveau de la mer que l'eau arrive. C'est rare d'arriver 2000 mètres plus bas. Donc, il y a un niveau, mais qui est relatif. C'est commode pour nous, mais c'est relatif. C'est un peu pareil avec le vide. Quand on utilise des énergies, c'est les énergies par rapport à cette énergie du vide qui détermine un certain niveau. Mais en dessous, il y a énormément d'énergie. Ce vide regorge d'énergie. Je ne sais pas si, bon, vous pouvez lire le chiffre, 10 puissance 24 à 10 puissance 58 joules par mètre cube. C'est vraiment, ça n'a rien à voir avec les énergies qu'on utilise sur Terre. La question, c'est, est-ce qu'on peut utiliser cette énergie? Est-ce qu'on peut l'extraire du vide? En fait, on a mesuré cet effet parce qu'on appelle, c'est l'effet Casimir. C'était dans les années 40 qu'on a mesuré cet effet. Casimir, c'était un Hollandais, un physicien hollandais, qui a proposé l'expérience suivante. Il a pris deux plaques, il les a placées l'une très, très près de l'autre, mais vraiment à quelques fractions de millimètres. C'était une expérience très précise. Et il s'avère que dans ce cas-là, cette énergie du vide se manifeste sous forme des ondes, des fluctuations, si vous voulez. Et ces fluctuations ont différentes longueurs d'onde. Les longueurs d'onde les plus petites, celles qui sont plus petites que la distance entre les plaques, mais ils existent toujours. Donc, ils sont là. Donc là, il y a autant d'énergie à l'extérieur qu'à l'intérieur. Celles-là, on ne les ressent pas. Mais les longueurs d'onde qui sont très grandes, plus grandes que la distance entre les plaques, mais ils n'existent pas entre les plaques. Ils ne peuvent pas exister. Ces fluctuations existent à l'extérieur des deux plaques, mais pas à l'intérieur. Et de ce fait, ils poussent les deux plaques. Et ce phénomène-là a été observé. Si vous mettez deux plaques comme ça, très très près, dans un vide parfait, aussi parfait que vous pouvez imaginer, vous éliminez toute autre source, vous voyez que ces plaques, elles vont se coller l'une sur l'autre, sinon vous devez exercer une autre force opposée pour les maintenir à une distance fixe. Donc ce phénomène a été mesuré, ça s'appelle l'effet Casimir, connu depuis 60 ans. Et il y a d'autres choses qui nous révèlent ce phénomène. Donc, on sait que cette énergie du vide existe. La question, c'est est-ce qu'on pourra un jour l'explorer pour les voyages interstellaires ou pour autre chose. Voilà. Donc, ensuite, vous avez vu le film de Walt Disney, The Black Hole, donc plongé dans un trou noir. Ça, je ne vous le conseille pas, ce n'est pas utilisé. Mais c'est les effets de relativité générale. Alors, on va en parler un peu. Depuis Einstein, on sait que l'espace et le temps, l'espace-temps en général, se courbent en présence d'une masse. Contrairement à Newton qui disait que la Terre tourne autour du Soleil parce qu'il y a une force de gravitation qui l'attire, Einstein interprète la gravitation comme un fait géométrique. Et c'est ça la théorie de la relativité générale. Le Soleil est ici, il déforme l'espace-temps qui est assimilé à quelque chose d'élastique. Et donc, si vous placez dans cet espace-temps déformé un objet plus petit comme la Terre, mais elle est obligée de tourner autour, elle suit ce qu'on appelle les géodésiques dans l'espace-temps. Alors imaginez maintenant que vous avez un espace... Ça, c'est vrai aussi. Je préfère ne pas parler trop du temps, parce que, bon, mais il est vrai que ça affecte aussi le temps. Disons, ça déforme l'espace. Mais une heure, ça peut ne pas être une heure aussi. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est de traverser les distances interstellaires. Donc, parlons plutôt de l'espace. Oui. Donc, ce qui se passe, c'est que, on peut lui donner un autre exemple. Imaginez que vous voulez aller de la France en Italie. Il faut traverser les Alpes. Dans le temps, c'était très difficile. Imaginez le pauvre Hannibal. Qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a monté les Alpes, descend de l'autre côté. Mais maintenant, on a les tunnels du Mont-Blanc. Donc, on n'est pas allé, on ne fait pas tous ces chemins-là. On fait un tunnel et on prend un chemin plus court. Alors, comment faire ça dans l'espace? avant la théorie d'Einstein, quand on croyait que l'espace est plat, il n'y avait pas de possibilité. La distance de plus courte entre deux points, c'est la ligne droite, c'était bien connu. Mais maintenant, si l'espace peut être déformé, la distance entre deux points, c'est probablement pas la ligne droite. Imaginez que vous avez une surface, que votre espace, il est comme ça, il est courbé à cause de cet effet de déformation. Il est très courbé. Vous avez un point ici, la Terre par exemple, et vous avez une étoile que vous voulez atteindre là, Sirius. Alors, si vous voulez aller en ligne droite sur votre espace normal, vous devez faire tout ce long chemin, mais vous pouvez imaginer d'ouvrir un tunnel à travers l'espace, parce qu'on appelle un trou de ver, wormhole en anglais, passer à travers quelque chose qui est très mal défini, qui, pour des raisons de commodité, on appelle l'hyperespace, mais sans savoir ce que c'est. Et vous sortez de l'autre bout du tunnel à Sirius, ben comme, un peu comme vous sortez du tunnel du Mont Blanc, donc en ayant parcouru une distance beaucoup plus faible. Bon, vous pouvez me croire sur parole, parce que je ne pourrais pas vous prouver ça, qu'il existe des solutions mathématiques de relativité générale qui correspondent à ce genre de phénomène. Et d'ailleurs, ça a été utilisé dans le film de Carl Sagan avec Jodie Foster dans les années 90. Contact, voilà. Sagan avait demandé à l'époque à son ami Kip Thorne, qui est un des plus grands spécialistes de relativité générale, de travailler sur ces solutions des trous de ver. Et c'est Thorne qui a trouvé ces solutions, qui, avec ses étudiants, a beaucoup promu ce genre de choses. Donc, sur le papier, ça tient, quoique, ce n'est pas aussi évident. Hein, parce que ces trous de ver, il s'avère qu'on peut l'ouvrir. Mais, dans une fraction de seconde, ce tunnel se referme. Oui, c'était pas évident, Léo, on s'est rendu compte après. On est coincé après. Et il existe une possibilité, sur le papier toujours, de le maintenir ouvert. Mais il y a un prix à payer. Il faut utiliser quelque chose qui s'appelle une énergie négative. Alors, si vous me demandez qu'est-ce que c'est l'énergie négative, je suis incapable de vous le dire, parce que c'est une entité mathématique. Sur le papier, vous savez, c'est très facile. Vous mettez un signe moins devant une quantité, vous l'appelez une énergie négative. Mais dans la réalité physique, à quoi ça correspond, on ne sait pas. On ne connaît pas l'énergie négative. On n'a aucun exemple d'énergie négative. Mais sur le papier, ça peut exister. Donc, il faudra déployer ces genres de choses pour maintenir le tunnel ouvert et aller à l'autre bout. Non, il n'est pas infini à l'intérieur. Ce chemin à l'intérieur, il est tout à fait fini. Il est même. Ah oui, après, on est totalement annihilé. C'est pas qu'il n'y a pas quelque chose d'infini. On est totalement annihilé. Mais là, a priori, ça peut être le soleil et là, ça peut être une étoile proche. Hein. C'est fini. Et si vous allez autour, c'est pas l'autre bout. Ça pourrait être l'autre bout de l'univers. Hein. Ça peut être n'importe quoi. Mais en tout cas, c'est fini, bien sûr. Ce n'est pas un chemin infini. Oui, c'est fini. Oui, c'est tout à fait fini. Voilà. Si l'espace est très, très déformé, vous savez, sur cette image-là qu'on a mentionnée avec le soleil ici et la Terre qui tourne autour, là, il se creuse ce qu'on appelle un puits de potentiel gravitationnel. Plus la masse de l'objet que vous mettez là est importante, plus ce puits est profond. Et si vous avez un trou noir, ce puits devient d'une profondeur infinie. On ne sait pas ce qui se passe au centre d'un trou noir, on ne sait pas ce qui existe. Mais il y a des gens qui pensent qu'à l'autre bout, il peut y avoir un autre trou blanc, ce qu'on appelle, où on peut ressortir. Bon, tout ça, c'est à nouveau des théories mathématiques. Je préfère ne pas m'attarder trop, parce que je risque de vous perdre. Dernière idée, et je vais m'arrêter là. C'est toujours l'idée de relativité générale. L'espace est déformable, c'est ça qu'il faut retenir, c'est comme une membrane. Alors, si elle est déformable, on peut imaginer que c'est un peu comme un tapis. Un tapis, on peut se prendre le pied au tapis, mais on peut imaginer quand même qu'on plie un peu le tapis devant soi. Imaginez que j'ai un tapis ici et je vais aller d'ici là. je peux essayer de tirer le tapis devant moi, le plier, hein, et puis, bien sûr, bon, je laisse un peu de tapis derrière, et petit à petit, j'avance et j'arrive à l'autre bout, mais localement, je ne bouge pas. Hein. Je suis toujours sur la même place sur mon tapis, sur mon espace. Donc, l'idée qui a été proposée par un physicien aux États-Unis, Manuel Alcubierre, à 95, c'était de créer un cocon. Bon, ici, c'est le vaisseau qui utilise une énorme source d'énergie qui parvient à déformer l'espace devant le vaisseau et derrière le vaisseau, parce qu'il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux. Il y a donc une bulle. À nouveau, on rencontre cette énergie négative. Ça, c'est une des tares de solutions de relativité générale. Et on avance comme ça, mais localement, on ne bouge pas. Hein. On a notre cocon à nous, on ne bouge pas. Mais par rapport à l'espace extérieur, on peut aller même plus vite que la lumière. Alors, il y a des gens qui ont confirmé ces calculs. Il faut déployer une certaine quantité d'énergie qui s'avère plus grande que ce qu'il existe dans l'univers. Observable. Voilà. Voilà, donc c'est faisable. Non, mais j'ai voulu vous faire un panorama de ce qui existe. C'est tout ça pour vous montrer qu'il y a quand même des théoriciens qui essayent de trouver des moyens pour un jour, peut-être. Voilà, c'est une autre illustration du phénomène. Oui. Oui, utiliser l'énergie de l'univers en... Oui, pratiquement, oui. Le tapis, c'est oui. Voilà, si on arrive à maîtriser ce genre de, oui, d'énergie. Pourquoi pas? Donc voilà, je vais m'arrêter là avec cette figure. Je pense que, bon, c'est plus poétique quand même que tout ce qu'on vient de dire jusqu'ici. J'ai essayé de vous faire un panorama des idées anciennes et plus récentes sur les possibilités de voyages interstellaires qui, à travers le temps, surtout lors du XXe siècle, ont inspiré beaucoup les gens, les auteurs de science-fiction, mais aussi les scientifiques. C'est un sujet qui intéresse un peu moins les gens actuellement, mais qui a été une source d'inspiration dans les années 60, pour moi aussi. Je voulais devenir astronaute à l'époque. Alors, est-ce qu'un jour, ce genre de choses se feront? Je serais prêt à parier que ça se fera un jour, le voyage interstellaire. Je vous rappelle que pour aller au moins vers les étoiles proches, il n'y a pas un obstacle physique. Les obstacles sont plutôt quantitatifs. Ils sont liés à notre incapacité technologique actuelle. Mais sur le plan de la physique, il n'y a pas d'impossibilité. Alors, comment on ira vers les étoiles? Je ne sais pas. Peut-être ces dessins-là est plus réaliste que tout ce que je vous ai montré jusqu'ici. Parce que je ne peux pas imaginer d'ici 100 ans, 200 ans, d'ici 3 siècles, peut-être on trouvera encore d'autres possibilités, la technologie aura progressé. Ce qui est sûr, c'est que quelque chose qui a été imaginé par quelqu'un à un instant donné de notre développement technologique a été réalisé plus tard par d'autres, par des moyens très différents, dans des conditions très différentes. Il ne faut pas oublier qu'il y a un siècle et demi, Jules Verne, dans Voyage vers la Lune, a imaginé envoyer les astronautes sur la Lune avec un canon, à l'aide d'un canon, la Columbiad. Hein. Il les a placés dans une cabine qui a été lancée par un canon gigantesque. C'est totalement irréaliste. Hein. Il serait tué sur le coup par l'accélération et par la chaleur développée par les frottements avec l'atmosphère terrestre. Mais ce qui compte, ce n'est pas tellement le moyen qu'il a imaginé. C'était l'idée d'envoyer quelqu'un vers la Lune. Ça a été réalisé un siècle plus tard par d'autres moyens. Donc, ce qui compte, c'est les idées. Après, les comment, bah, on arrivera un jour, on peut avoir confiance à nos descendants lointains. C'est dommage que ce ne sera pas nous, mais bon, on peut rêver. Voilà, donc je m'arrête là. Merci, en tout cas, pour votre attention.
Merci beaucoup. Je suis assez séduit par la dernière version, parce que c'est un peu ce qui s'est passé ce soir, finalement. Vous nous avez amené très très loin sans bouger de la salle. Donc je pense que cette solution existe.
voilà, oui, ça voilà. Permet de rêver, effectivement.
Donc y a-t-il d'autres questions, même si la conférence a été très ouverte hein, s'il y a d'autres points à éclaircir, n'hésitez pas, manifestez-vous.
C'est une question tout à fait naïve, hein, parce que je ne suis pas du tout de la partie.
Il y a des réponses naïves, il n'y a jamais de questions naïves, il n'y a que des réponses naïves.
J'ai entendu parler d'énergie noire ou de matière sombre ou choses comme
oui,
ça.
Oui, plutôt sombre. On les appelle sombre, mais noire aussi. On utilise cette
énergie. Est-ce qu'il y a une énergie qu'on
pourrait exploiter.
Qu'on pourrait exploiter.
Oui, alors, très bonne question. C'est plutôt sur le plan cosmologique. Effectivement, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques instants, j'ai mentionné le fait que notre univers accélère de manière... voilà, depuis une quinzaine d'années, on sait que notre univers accélère. Et on attribue cette accélération, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on observe. On voit que les galaxies, à une certaine distance, vont plus vite qu'est-ce qu'ils devraient aller, a priori. Et on attribue cette accélération à l'existence d'une forme d'énergie bizarre, qu'on ne comprend pas, qu'on appelle énergie sombre, qui, contrairement, ce serait un fluide, qui, contrairement à toute autre forme d'énergie qu'on connaît, depuis Einstein, vous savez, l'énergie est équivalente à la masse, et la masse est toujours attractive. Donc, si vous avez la masse quelque part, ou beaucoup d'énergie, ça attire, en général, les autres objets. Mais cette énergie sombre, elle a l'air de repousser les autres. Donc, c'est une forme d'énergie négative. On ne connaît pas, on ignore totalement ce que peut être aujourd'hui. Il y a des gens qui disent que ça peut être l'énergie du vide. Mais il y a d'autres qui disent que ça peut être autre chose, ça peut être bon, des entités d'autres champs, parce que l'univers est rempli de champs de différentes sortes. Donc, cette énergie du vide, si jamais on comprend sa nature, est-ce qu'on pourrait l'utiliser pour faire ces gens? Probablement, peut-être, oui. Ça pourrait être une possibilité. Mais comme on ignore totalement, c'est d'après ce qu'ils disent la plupart de mes collègues, c'est l'énigme le plus grand de la physique actuelle. La nature de l'énergie du vide, qu'on ignore complètement. Ouais.
Toujours dans les questions naïves. Il me semble que c'est en février ou mars dernier qu'une équipe, hispano-américaine, mais je ne suis pas sûr de moi, je l'ai lu, a procédé à ce qu'ils ont appelé de la téléportation de fichiers. C'est-à-dire qu'on n'était plus sur du transfert, donc il n'y avait pas de moteur. C'était une application de la physique quantique et quelque chose était, puis a été non pas transporté, mais est apparu ailleurs. Enfin, bon. Ma question est la suivante. Est-ce que ce type... Que les auteurs de science-fiction ont appelé téléportation, que au moins
ça pourrait servir.
Est-ce que sur le plan de la physique, c'est imaginable
pour transporter des objets macroscopiques des distances
non plus un fichier, c'est-à-dire des bits, mais plutôt
voilà
du matériau, donc des atomes.
Voilà. Alors bon, première chose, parce que je vais être clair là-dessus, je ne suis pas un spécialiste. Autant je me connais un peu en cosmologie, autant en physique quantique, je me connais beaucoup moins. Donc, je ne voulais pas vous induire un peu en erreur. Je vais vous dire des choses, mais sous réserve. Hein, vous ne les prenez pas trop... Alors, effectivement, d'après ce que j'ai lu là-dessus, ce qu'ils ont transformé, téléporté, c'était de l'information. C'est-à-dire, c'était des électrons qui étaient imbriqués d'une certaine manière. Donc, ce qu'ils ont téléporté, c'était cette information-là, l'état des spins des électrons qu'ils ont transmis. Alors, ce n'est pas la même chose que de transporter un objet. Ce n'est pas l'électron qui a été transporté lui-même, c'était cette information qui se trouvait codée dans la position des électrons. Alors, mais on peut se poser la question, est-ce que cette information, on peut l'utiliser pour l'envoyer déjà, ce serait important, hein, parce que imaginez qu'un jour, on installe une colonie sur Proxima de Centaure. Si on veut leur envoyer un message, ça va prendre 4 années, plus 4 années pour revenir. Si on pourrait, ne serait-ce que l'information, leur envoyer le message, un télégramme qui arrive au bout d'une heure, ce serait déjà énorme. Voilà, on pourra communiquer. Donc déjà, ça pourrait servir à ça. Deuxième point, est-ce que cette information, on peut l'utiliser par une machine à distance pour reconstruire un objet ? On parle, je ne sais pas, vous avez vu maintenant, on parle d'imprimantes 3D. Hein, vous avez dû lire cette information, ça semble assez extraordinaire quand même, ce qu'ils sont capables de faire. Il y a même des gens qui disent qu'on pourrait construire des pistolets, les terroristes pourraient utiliser, voilà. Bon, c'est-à-dire, on peut, en transportant de l'information, si vous avez une machine capable de construire des choses, on pourrait reconstruire un objet à distance. Mais ce n'est pas la même chose que l'objet, comme l'objet original, ce n'est pas transporter l'objet original, c'est encore autre chose. Donc, maintenant, l'idée, pour arriver au fond de votre question, est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour on arrive à transporter vraiment un objet de cette matière-là ? C'est-à-dire que l'objet qui est là, comme dans les Star Trek. Pour ceux qui sont fans de Star Trek, vous savez, ils se mettent dans cette machine au milieu et on les voit disparaître et ils apparaissent à la surface de la planète. Paf. Oui.
Il y a deux questions. Enfin, il y a l'objet vivant. Alors déjà, ça
serait... Ah oui, ça serait beaucoup plus élaboré, mais un objet neutre.
Un objet inerte.
Oui, oui, tout à fait. Voilà. Alors, là, j'avais vu un livre de quelqu'un qui avait analysé justement la physique de Star Trek dans les années 90, ça s'appelait The Physics of Star Trek, hein, et il a essayé d'évaluer les quantités d'énergie quand même pour transporter, parce qu'un objet macroscopique contient énormément d'informations. Hein. C'est-à-dire chaque atome, chaque molécule, et on contient même un gramme, contient 10 puissance 23 atomes. Si vous essayez d'imaginer combien d'énergie il faut pour coder cette information, parce que chaque fois que vous codez une information, ça prend de l'énergie quand même. Hein. L'information, c'est de l'énergie. Donc, coder cette information sur les trois dimensions de l'espace, et puis il n'y a pas que la position des atomes, il y a aussi les connexions entre eux qui sont en contact, les différentes liaisons entre les atomes et les molécules, si vous avez un objet cristallin, par exemple. Donc, et transformer cette information à cette distance-là, il a calculé l'énergie qu'il faut. C'est pas très loin de l'énergie qu'il faut pour déplacer cet objet, vraiment. Hein. Donc, on ne gagne pas beaucoup en ce qui concerne l'énergie à utiliser, quand même. C'est, voilà. Et puis, pour un objet vivant, là, c'est très risqué, quand même, parce qu'il faut être sûr qu'on va atterrir au bon endroit et non pas au milieu d'une table, par exemple. Trouver une table, tout, voilà. Donc, on est très loin, quand même. Mais ça ouvre des perspectives, surtout pour transporter de l'information, pas pour des objets pour l'instant. C'est là où ça me paraît le plus intéressant.
Et puis, il me semble, juste pour vous dire, il me semble que si on téléportait des êtres vivants, comme on casse les liaisons, y compris les liaisons de la mémoire, la personne voilà. Arrivant là-bas ne saurait plus qu'elle aurait été transportée.
Voilà.
Et donc, il envie risque d'être téléportée à nouveau sur la base.
Il faut. Oui, ça pose plein de projets. Voilà. Il faut qu'il arrive avec un livre qui lui dit « Vous êtes monsieur là, avec votre carte d'identité. »
Donc justement, on parlait de transporter l'information. Et dans les voyages interstellaires, il est bien entendu que justement, on ne pourra pas communiquer avec ceux qui voyagent.
Ouais.
Puisqu'aujourd'hui, nos moyens de communication sont au maximum de la vitesse de la lumière. Et du coup,
voilà, oui.
Du coup l'information les suivra sans jamais les rejoindre.
Sans jamais. Enfin, si, s'ils vont moins vite que la lumière, ça va les atteindre à un certain moment.
Oui,
mais effectivement, il faut 4 ans, 5 ans, plus ils vont loin, plus ce sera difficile de les atteindre. Oui. Oui, c'est vrai. Sauf si on trouve un moyen de faire des choses, voilà, de passer par des tunnels de l'espace-temps. C'est vrai, ils seront découpés, coupés de leur base.
Il faudra que l'information passe aussi dans les mêmes trous de verre. Ou...
Oui. Malheureusement. Mais oui, les lois de la physique sont très dures, malheureusement.
Non, mais pour d'autres lois, ce n'est pas des lois physiques. Ce n'est pas avec en marchant que tu vas aller vite. Il faut d'autres moyens que les moyens actuels. Ce n'est pas avec les moyens actuels.
Mais oui, je vous l'ai bien dit, sauf miracle physique ou technologique. Peut-être qu'un jour, lors du siècle prochain, un nouveau Einstein viendra et trouvera d'autres solutions qui nous permettront. Mais pour l'instant, les lois de la physique sont assez bien validées quand même par toutes les expériences que nous avons faites. Mais il faut toujours laisser une porte ouverte, ça je vous l'accorde. Mais je ne peux vous parler que des choses qu'on connaît actuellement. Si je pouvais vous parler des choses qu'on ne connaît pas, je serais ravi. Mais pour l'instant, c'est tout ce qu'on sait, malheureusement ou heureusement.
Voilà. Est-ce que ça peut être le mot de la fin ? Il faut inventer une nouvelle physique. Voilà. Trouver une nouvelle physique, plutôt.
Voilà. Peut-être la nouvelle génération, les jeunes, si ça les inspire. Je suis toujours content de voir des jeunes dans l'audience. Et
oui, puis quand on regarde les choses, en fait, ça s'accélère aussi au niveau des découvertes. Hein. On a attendu... 1000
oui,
ans pour faire des pas,
peut-être.
200 ans, donc on verra bien, c'est l'avenir qui nous le dira.
Mais écoutez, Je ne sais pas, parce que souvent, comme je fais des conférences aussi sur la science-fiction, on me demande, oui, est-ce que la science-fiction a prédit quelque chose ? Est-ce qu'il y a... En fait, les auteurs de science-fiction, ce n'est pas qu'ils ont un pouvoir de prédiction, mais ils brassent toutes ces possibilités, tout ce qui est possible et imaginable, que de temps à autre, il y a quelque chose qui est appliqué. Alors, pour moi, l'image la plus claire et nette de Star Trek, qui est restée dans toutes les mémoires, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est tout à fait habituel. Ça vous ferait. C'est un geste qu'on fait 10 fois par jour, mais il y a 40 ans, ça n'existait pas. Ce geste où on décroche et on dit « Beam me down, Scotty ». Vous voyez, le capitaine Kirk qui décrochait un truc portable, qui le mettait à son oreille, qui demandait à son coéquipier de faire quelque chose à son vaisseau. Là, il y a 40 ans, à la fin des années 60, ce genre de choses étaient inimaginables. Maintenant, on a des portables, hein, c'est, ça c'est un geste. Mais voilà, ça c'était une prédiction, si vous voulez, quelque chose de la science-fiction qui était bien avant son ère quand même. Mais bon, peut-être qu'un jour on aura d'autres applications.
Voilà. Bon, on a toute la nuit pour y réfléchir.
Voilà.
Bon, en tout cas, merci encore infiniment, Monsieur Prandtos. Merci d'être venu, et puis peut-être à certainement une prochaine fois. Alors, c'est pas forcément de la science-fiction, c'est de la science, mais samedi, si vous êtes intéressé, il y a des étudiants de physique qui viendront vous montrer un matériau un petit peu surprenant, en fait, qui est capable de guillemets, voler, et ils essaient de vous montrer si effectivement que ce genre de matériau on pourrait inventer des moyens de transport. Ces matériaux, c'est ce qu'on appelle des supraconducteurs qui lévitent en fait sur de la matière et donc il n'y a plus de frottement. Et vous verrez, c'est des démonstrations tout à fait étonnantes parce que ça dépasse un peu ce qu'on connaît de la vie tous les jours et c'est vraiment étonnant. Voilà. Donc c'est samedi après-midi à partir de 15h30. Voilà, ici. Bien, merci. Donc d'ici là, donc je vous souhaite une bonne fin de soirée et peut-être une prochaine fois. Merci encore.